Nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Nous nous situons là dans le sermon sur la montagne qui occupe les chapitres 5, 6 et 7 de cet Évangile. Alors nous sommes là dans le premier de ces trois chapitres, le chapitre 5. Nous allons lire au verset 43. 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Eh bien, nous allons méditer sur cet enseignement du Seigneur Jésus, l'un de ceux donc qui sont inclus dans ce sermon sur la montagne, considéré comme la charte de l'Église et à juste titre, vraiment, la charte de l'Église, c'est une partie forte, puissante, et bien des choses dans les épîtres proviennent de ce sermon, sont l'élargissement de certains enseignements qui sont inclus dans le sermon prononcé par le Seigneur lui-même. Au verset 43, nous avons lu, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais ce n'est pas l'Écriture qui a dit cela. « Tu haïras ton ennemi. » Vous avez appris qu'il a été dit. Le Seigneur Jésus ne dit pas qu'il a été écrit. Si ça avait été écrit dans l'Ancien Testament, Jésus aurait dit, « Il est écrit. » Là, il a été dit, c'était donc dans la tradition des Israélites que l'on disait cela, tu aimeras ton prochain, et on avait ça, tu aimeras ton prochain, c'est écrit, mais tu haïras ton ennemi, cela ne l'est pas, et c'était les Juifs donc qui avaient inclus, ajouté cela dans leur tradition. Et prenant raison de cela, le Seigneur dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez tous ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Sur cette terre, en effet, nous marchons sur des chemins de haine. Et dans notre époque, il faut le constater, il y a bien des apparences qui semblent couvrir cela. Mais en réalité, nous marchons sur des chemins de haine, nous marchons dans une société où règne l'inimitié, l'égoïsme, l'indifférence, où chacun essaie de s'accaparer tout ce qu'il peut, essaie de se satisfaire lui, où chacun se voit comme le centre du monde. Il semblerait que le monde ait été fait pour l'égoïste, celui qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à la satisfaction de ses besoins, et même s'il est entouré d'une famille, d'amis, de certaines personnes qui peuvent lui accorder de l'affection, lui, sa propre affection, il ne la donne qu'à ceux qui peuvent lui être utiles, qui contribuent à augmenter sa satisfaction personnelle. Ça, c'est le portrait de l'homme égoïste. Or, le monde en est rempli maintenant. On a beau, dans les relations entre peuples, parler d'aide. Chers amis, il m'arrive quelquefois de m'intéresser aux événements et notamment aux échanges entre nations, à l'économie, disons. Et quand on parle de l'aide au tiers-monde, vous savez, on parle de quelque chose qui n'est qu'une surface, mais en réalité, au fond, l'égoïsme de certaines nations par rapport à d'autres est excessivement grand. Bref, l'égoïsme sévit sur la terre, et le Seigneur Jésus ne l'ignorait pas. Cependant, l'amour pour nos ennemis, qu'enseigne ici le Seigneur Jésus, est bien la clé des problèmes qui agitent le monde. L'amour pour nos ennemis. Si demain, les hommes changés, transformés, se mettaient à aimer ceux qui ne les aiment pas, leurs ennemis, le monde prendrait un tout autre aspect. Il serait lui-même tout différent. Il serait, disons, l'opposé de ce qu'il est maintenant. Et Jésus, dans cet enseignement, emploie un certain verbe, dans le grec naturellement. Il emploie le verbe agapao, qui est ce verbe correspondant au substantif grec agapé, qui est l'amour, l'amour de l'esprit, l'amour divin, l'amour de Dieu. Et il emploie donc ce verbe agapao, et non pas le verbe qu'on aurait pu, pour la circonstance, attendre du Seigneur, le verbe philéo, qui lui est, n'a pas la même valeur que l'autre, et qu'on peut traduire par affectionné. Eh bien, le Seigneur ne dit donc pas, il faudrait que vous ayez de l'affection et même une certaine considération pour vos ennemis. Non, il dit aimer de l'amour divin, aimer de cet amour agapé qui est l'amour de Dieu et qui est l'amour pour Dieu, envers Dieu, et l'amour envers le prochain du premier commandement et de celui qui lui est adjoint, comme le Seigneur l'a dit. Donc, aimez vos ennemis de l'amour de Dieu. Donc, Jésus ne dit pas, ne nous commande pas de respecter nos ennemis, d'avoir la miséricorde, de l'indulgence à leur égard. Non, il nous dit de les aimer. Il faut mettre l'accent là-dessus, les aimer. Il veut donc que son disciple se comporte vis-à-vis de ses ennemis comme il doit se comporter envers Dieu et envers le prochain. Le même terme. Comme envers Dieu ou envers le prochain. Une question peut se poser, une objection même se faire. On pourrait dire, mais moi je suis chrétien, je ne me connais pas d'ennemis. Je suis persuadé que au milieu de vous, plusieurs peuvent penser cela. Je ne me connais pas d'ennemis, je n'ai pas d'ennemis, il y a peut-être des gens qui ne m'aiment pas beaucoup, mais enfin, parce que je suis chrétien, ils sont autre chose, mais je ne me connais pas d'ennemis personnels. Il est possible que nous n'ayons pas d'ennemis personnels, Mais n'oublions pas ce que le Seigneur nous a enseigné. Nous avons, je ne veux pas noircir la situation, mais il faut bien que nous sachions que nous avons des ennemis à cause de l'Évangile. Je lirai dans Jean 15 et verset 18. Jean 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ou l'on pourrait dire, le serviteur n'est pas autre, n'est pas dans une autre position que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors là, je suis obligé de faire une petite rectification. Le traducteur a mis le mot « garder » qui traduit bien le grec, c'est vrai, littéralement. Mais en réalité, l'intention du Seigneur n'est pas correctement traduite. Car le verbe grec qui est traduit par « garder », c'est bien cela, littéralement, vous ouvrez un lexique, vous verrez en effet que le verbe grec correspond au verbe français « garder ». Seulement, dans le grec, il y a deux manières de garder. Il y a garder dans une bonne intention et garder dans une mauvaise intention, dans l'intention de nuire. Et ça se dit aussi garder, c'est le même verbe grec. Tandis qu'en français, il faudrait changer de verbe. Donc vous voyez que le problème du traducteur est quelquefois assez délicat. Là, il faudrait mettre un autre verbe. Et par exemple, on peut proposer le verbe épier, car en effet c'est ce qu'ils ont fait de la parole du Seigneur. Hein. Garder, c'est nous en français, c'est garder dans un bon sens, alors qu'ici il s'agit de garder dans un mauvais sens, donc épier, le mieux ce serait épier. Alors si vous voulez, nous allons transformer et mettre le verbe épier. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont épié ma parole, ils épieront aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haï, et moi, et mon père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Alors, déjà de ce fait, nous avons des ennemis. Nous avons des ennemis que nous ne connaissons peut-être pas ou qui se révèlent là quelquefois. Nous avons des ennemis à cause de l'Évangile. Pensez à ce que nous pouvons constater maintenant dans les événements actuels à l'égard d'Israël. C'est bien qu'actuellement Israël est très remuant et que beaucoup de gens sont un peu traumatisés par les actions violentes que Israël vient d'entreprendre. Bon, très bien. Mais au-delà de cela, nous voyons que toutes les nations, tous les peuples se tournent contre Israël, contre ce petit peuple. Et pourquoi cela? Pourquoi? Est-ce que les Arabes ont vraiment besoin de la Palestine? Absolument pas. Une étude a été faite là-dessus et l'on a montré qu'ils pourraient mettre en valeur toutes sortes d'autres étendues bien plus importantes que n'est la Palestine. Pourquoi cela? Le psaume 2 nous en donne l'explication et toute la Bible nous le fait comprendre. Ils se tournent, ils haïssent ce petit peuple parce que ce petit peuple actuellement agit dans le sens des desseins de Dieu. Parce que les desseins de Dieu réapparaissent là dans ce qui concerne ce petit peuple et la renaissance du pays, de la nation d'Israël, telle qu'elle est prophétisée dans le prophète Ésaïe. En un jour, une nation peut-elle naître? Oui, eh bien, cela se fera. Et c'est donc quelque chose d'annoncé, mais il y a une haine inexplicable. Elle n'est pas une simple rivalité de peuple, elle est une haine. Et pour en ce qui concerne l'Église, il y a haine. Si l'on est un peu informé de ce qui se passe dans certains pays, par exemple les pays de l'Est, en Chine, les pays où sévit la persécution, eh bien, il y a une haine manifeste et violente contre de pauvres chrétiens qui sont innocents et qui sont un peu comme des agneaux et qui évitent de donner prise justement à la justice de leur pays. Ils s'efforcent de ne rien faire qui puisse leur valoir des reproches ou même une arrestation, et cependant ils sont l'objet d'une haine farouche, terrible. La Bible elle-même est l'objet d'une haine. On la saisit, on la lacère, on la détruit. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Bible? Qu'est-ce qu'elle a fait, ce livre, à ces pays communistes? N'est-ce pas? Vous voyez, il y a une haine sans cause. C'est forcé, ça, dans notre monde pécheur, tout ce qui est de Dieu est forcément l'objet, le sujet d'une haine sans cause. Donc, des ennemis de ce côté-là, nous en avons. Mais attention, lisons encore dans notre passage, le passage que nous méditons de Matthieu 5, au verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Si vous aimez ceux qui vous aiment. » À côté des ennemis, nous n'avons pas, bien sûr, que des gens qui nous aiment. Il y a des gens qui ne nous aiment pas sans être peut-être des ennemis très déclarés. Et puis, disons que nous-mêmes, nous sommes en face de bien des personnes parmi lesquelles il y a des antipathiques. Alors ça vient de nous, des antipathiques, des personnes pour lesquelles n'y réfléchissons pas toujours, mais nous ne sentons pas du tout de sympathie. Quelquefois, nous sentons même le contraire, une antipathie. Des antipathiques, des gens qui inspirent un peu l'aversion, et nous sommes des gens de chair encore, nous sommes dans cette chair, dans cette tente, et il arrive que cette antipathie vienne en nous. Et nous avons aussi les moqueurs, oh les moqueurs qui sont insupportables. Nous avons les vaniteux. Quand on est là, qu'on doit supporter le langage de certains vaniteux, c'est pénible, et on a hâte de se séparer d'eux. Et puis, en plus des moqueurs, des vaniteux, nous avons les gens agaçants. Il y a des gens qui sont énervants. C'est vrai. Ben, je vous dis, nous sommes encore des êtres de chair. Les gens agaçants, ou les gens pénibles. Les gens pénibles. Je ne parle pas des gens, des frères ou des sœurs de l'Église, n'est-ce pas, qui ne doivent plus ni être agaçants ni pénibles. Eh bien, tous ces antipathiques, tous ces moqueurs, tous ces vaniteux, tous ces gens agaçants et pénibles, il faut les aimer. Voilà le gros problème. Les ennemis, je vous dis, n'est-ce pas, nous en avons, mais ils ne se manifestent pas toujours. En ce moment, là, dans notre pays où nous avons encore la liberté. Oh, vous savez, je l'ai senti, même en France, là, attention, Je l'ai senti, ça je pourrais. Mais enfin, n'allons pas maintenant penser à cela. Restons sur les gens pour lesquels nous n'avons pas de sympathie naturelle ou qui même sont des gens que nous aimons mieux tenir à l'écart, fuir, pour les raisons que nous venons de dire. Eh bien, le Seigneur alors nous enseigne ceci. Ces gens-là, il faut que vous les aimiez. Voilà, ces gens-là. Si vous aimez vos frères qui sont gentils, sympathiques, qui vous font du bien, qui vous servent, qui vous consolent, qui vous aident, etc. Oh, alors là, c'est facile. Vous êtes sur un terrain de grande facilité. Mais aimez les gens qui sont pénibles ou antipathiques, voilà ce que le Seigneur commande. Et en quoi cet amour va-t-il consister? Ça ne doit pas rester, évidemment, un amour de principe. Un amour de principe, c'est quelquefois facile, on peut faire un peu violence à sa conscience et dire, eh bien, cet homme-là, tu vois, ou cette femme-là, ils sont énervants, agaçants. Enfin, quand tu les rencontres, tu t'obligeras de rester le temps nécessaire en leur présence et comme ça tu les aimeras. Mais ce n'est pas ça, ça n'irait pas bien loin, ça. Le Seigneur nous demande plus que ça. Il nous demande quelque chose de très spirituel. Eh bien, ce qu'il nous demande, le Seigneur, c'est d'user de l'attitude chrétienne au pardon. Et l'attitude chrétienne au pardon est quelque chose qui est plus général que nous ne pensons, qui doit être plus étendu que ce que nous pensons. Dans Matthieu chapitre 6, et au verset 14, nous lisons, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pardonner, c'est abattre l'obstacle entre le prochain et soi. Pardonner, c'est oublier, vraiment oublier, comme Dieu a oublié nos péchés qui ont été pardonnés. C'est se réconcilier entièrement, comme s'il n'y avait eu aucune offense. Pardonner, c'est aider le prochain à découvrir le pardon de Dieu. Pardonner, c'est aider le prochain à découvrir le pardon de Dieu. Eh bien, tout ce qui se fait en ce domaine du pardon doit se faire dans le domaine de l'amour envers les gens agaçants, antipathiques, moqueurs et autres. Entre eux, si vous voulez, ceux que nous n'aimons pas naturellement, ou même ceux qui peuvent être considérés comme nos ennemis. Eh bien, il faut avoir cette attitude que je viens de dire. Il faut penser à les aider à découvrir la voie de Dieu pour recevoir eux aussi le pardon. Et nous devons comprendre, et le Seigneur, par son enseignement bref, concis, désire que nous réfléchissions. Il faut toujours réfléchir à propos de l'Écriture. Il faut méditer. Heureux l'homme qui réfléchit sur les choses. Eh bien, le Seigneur désire que nous comprenions que rester dans la haine ou dans l'inimitié, simplement, c'est multiplier la haine, c'est l'augmenter. Si nous nous tenons sans bouger, sans rien faire, sans rien changer, dans l'inimitié, je laisse la haine, c'est peut-être trop fort, mais l'inimitié simplement, hein, à l'égard de certaines personnes, si nous restons dans l'inimitié, nous la multiplions. Et c'est quelque chose qui, en psychologie, est bien connu. Simplement se cantonner à une certaine attitude d'inimitié, une inimitié qui est montée toute seule dans notre cœur, eh bien, on va augmenter cette inimitié. Les jours passeront, l'inimitié augmentera. Pour la bonne raison c'est que l'obscurité, l'inimitié, c'est, elle est située dans les ténèbres. L'inimitié, c'est l'obscurité. Et l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Vous en contenez, hein? Quand on veut chasser l'obscurité, il faut amener une lampe. Mais l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Il faut donc une lampe, il faut donc une lumière, il faut la lumière de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous dit. Vous êtes en présence d'ennemis, en présence de gens que vous n'aimez pas naturellement ou qui ne vous aiment pas. Et c'est très désagréable de sentir qu'on n'est pas aimé. Enfin, il y a des choses, il y a des obstacles entre certaines personnes, certains hommes et vous. Bon, eh bien, là, il faut que vous ameniez la lumière de Dieu. Parce qu'il y a une obscurité du fait de cette inimitié. Il y a obscurité, il y a ténèbres. Et vous laisseriez, vous, subsister des ténèbres entre vous et certains hommes, alors que vous êtes les témoins du Seigneur Jésus pour tous. Alors, il faut apporter la lumière de Dieu. Et comment apporter la lumière dans cette obscurité? La lumière, c'est l'amour divin. L'amour divin est qui chasse la haine, et qui chasse l'inimitié. Alors, aimez vos ennemis. Vous allez, en aimant vos ennemis, apporter la lumière de Dieu. Nous pouvons aussi comprendre ceci. C'est que la haine ou l'inimitié, l'animosité, vous voyez, je vais prendre des choses plus douces que la haine, l'inimitié, l'animosité, eh bien, c'est quelque chose qui est néfaste. Néfaste pour la personne à l'égard de laquelle nous avons de l'inimitié ou de l'animosité. C'est néfaste. Cette personne peut en souffrir. Mais c'est néfaste pour nous aussi. Nous qui concevons de l'inimitié, qui entretenons de l'inimitié ou de l'animosité contre quelqu'un, c'est néfaste pour la personne qui peut en souffrir. Elle peut être très sensible, le sentir, elle en souffre. En effet, quand nous la voyons, cette personne, eh bien, nous nous enfuyons, nous allons ailleurs, nous écourtons bien vite tout échange, tout entretien avec elle. Notre visage est raide et froid, glacial. Elle en souffre, cette personne. Et nous nous faisons du mal. Aussi. Voyez, n'est-ce pas? Il faut réfléchir à ces choses. Mais vous voyez, la parole de Dieu est là pour nous faire réfléchir à ces choses-là. Nous n'avons pas besoin d'aller faire suivre des cours de psychologie dans la faculté des lettres. C'est pas ce que nous y ferions. Mais nous avons besoin, dans l'Église, devant la parole de Dieu, nous avons besoin de réfléchir, et nous avons tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu pour réfléchir. Entre ces personnes, une force mauvaise et dangereuse. Alors, dans le cœur de l'une et dans le cœur de l'autre personne, il y a là un mal, une espèce de cancer qu'on laisserait subsister. Et c'est pour guérir tout cela que le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis, aimez ceux qui ne vous aiment pas, aimez peut-être aussi ceux que vous n'aimez pas de façon naturelle. Aimez-les de l'amour de Dieu. L'amour est en effet la seule force capable de changer un ennemi en ami. De changer une personne considérée comme désagréable, que l'on n'aime pas ou qui ne vous aime pas. Mettons que ce soit cette personne qui ne vous aime pas, on le sait, on le sent, eh bien l'amour est la force qui est capable de changer cette personne avec laquelle nous étions séparés par de l'animosité, de la changer en ami et de la changer en chrétien, mais en chrétien, de la changer en ami, de la changer en chrétien. Il faut savoir qu'aucune vérité ne peut se révéler en celui qui entretient en lui de l'animosité, de la haine, de l'inimitié, alors aucune vérité. Si par conséquent nous laissons subsister en nous, à l'égard de certaines personnes, nous laissons subsister de l'animosité, je prends le mot le plus doux, le moins fort, si nous laissons subsister ça, il sera impossible qu'il y ait vérité. Nous nous mettons dans l'incapacité de faire apparaître la vérité. Et si nous ne faisons pas apparaître la vérité, quel témoin du Seigneur sommes-nous? Quel témoin, dites-moi? Quel témoin sommes-nous? Les témoins, mais il faut que dans leur personne, dans leurs propos, ils aient la parole de vie, la parole de vérité. Il faut que dans leur personne, dans leur cœur, il y ait la vérité. Alors, tel est le pouvoir de l'amour rédempteur. L'amour est toujours un amour rédempteur. Dans un carrefour, là, la semaine dernière, quelqu'un a demandé quel est le caractère dominant de l'amour divin. Alors, je lui ai dit, écoutez, le caractère dominant de l'amour divin, vous êtes bien de demander ça. Parce qu'aujourd'hui, on l'a oublié. On n'en tient pas compte. Le caractère dominant de l'amour divin, du véritable agapé, c'est que cet amour sauve. Cet amour sauve. Dieu a tant aimé le monde. Vous croyez que Dieu a aimé le monde pour le monde? Il nous est dit ailleurs que entre le monde et Dieu, il y a précisément une inimitié. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Enfin, l'amour de Dieu est un amour qui sauve, un amour qui ne sauve pas, un amour faible, un amour qui laisse subsister toutes sortes de choses humaines, est un amour qui ne sauve pas, et ce n'est pas l'amour de Dieu. Donc, attention à cela, l'amour véritable est l'amour rédempteur. Et alors, le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis. Et si nous n'aimions pas nos ennemis, nous serions en contradiction, en opposition avec ce que Dieu a fait pour nous-mêmes. Prenons Romains 5, chapitre 5 et verset 10. Chapitre 5 des Romains et verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ah, c'est que nous avons été, nous, des ennemis à l'égard de Dieu. Nous avons été des ennemis à l'égard de Dieu. Et Jésus nous demande, en somme, d'adopter une attitude semblable à celle que nous avons rencontrée en la personne de Dieu. Il faut que notre attitude corresponde à celle de Dieu. Dieu, lui, ne nous a pas regardés comme ennemis, alors que nous étions ennemis, il nous a aimés. Et Jésus nous dit, alors vous, de votre côté, il faudrait que vous aimiez, vous aussi, vos ennemis. Mais nous allons voir alors maintenant la grande raison que Jésus nous donne d'aimer nos ennemis, car il nous donne là une raison majeure, une raison éclatante. Elle est au verset 45. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors, évidemment, l'objection peut venir tout de suite à l'esprit, mais je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu, je suis bien fils de mon Père qui est dans les cieux. Alors pourquoi le Seigneur dit-il ceci, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Est-ce à dire que, avant de prier pour ceux qui me maltraitent ou pour ceux qui me persécutent, avant de bénir ceux qui me maudissent, avant d'aimer mes ennemis, je ne suis pas le fils de mon Père? Et ce n'est qu'en aimant mes ennemis et qu'en bénissant ceux qui me maudissent que je deviendrai fils de mon Père. C'est pas tout à fait ça. Bien sûr, nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est, nous l'avons dit, ça se place tout de suite, là, au moment de la nouvelle naissance. Mais, je vais vous expliquer pourquoi le Seigneur dit cela. Le Seigneur dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que, c'est-à-dire, afin de réaliser vraiment, vraiment, avec Dieu, une relation vivante de fils à père. De réaliser. Il est certain que Dieu a décrété que vous étiez ses fils et ses filles. Mais si vous faites ce que le Seigneur dit ici, alors là, vous allez réaliser d'une façon effective, concrète, une relation vivante avec Dieu, relation qui est celle de fils à père. Il faut donc que, par l'amour, cette filiation qui nous a été octroyée par Dieu dans sa bonté, il faut que cette filiation devienne réalité. Le Seigneur Jésus a dit, surtout au début de son ministère terrestre, il disait « Mon Père », à l'exception de Matthieu 6,9, mais encore est-il, là c'est le modèle de prière, il faut faire exception. Mais il disait « Mon Père », et c'est à la fin de son ministère essentiellement qu'il a dit aussi « Votre Père », « Mon Père » et « Votre Père ». Donc, Jésus ne s'est pas placé tout de suite sur la même ligne que ses disciples, car lui, il est parfaitement le Fils du Très-Haut. Il y est par essence, par nature, le Fils du Très-Haut. Il participe à la divinité, mais il appelle ses disciples à cette participation par lui, à condition qu'on le suive, à condition qu'on l'écoute, à condition qu'on l'imite. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, dit le Seigneur Jésus dans le verset 44. Ainsi, Jésus va nous dire comment nous pouvons aimer les gens antipathiques, les gens que nous n'aimons pas naturellement, ou qui ne nous aiment pas, ou qui sont même nos ennemis. Il va nous dire, vous allez les aimer, et notamment, vous allez user de cette arme extraordinaire de la prière en leur faveur. Vous allez user de la prière en leur faveur. Et en cela, le Seigneur, implicitement, nous fait remarquer ceci, vous ne pouvez pas aimer vos ennemis. Vous ne pouvez pas. Comme Josué disait au peuple, vous voulez être fidèle, vous ne pourrez pas. Vous ne pouvez pas par la chair. Vous ne pouvez pas, votre chair ne le fait pas. Votre chair s'y refuse. Mais si vous usez de la prière, alors vous arriverez vraiment à aimer, parce que vous vous dégagerez de la chair, vous vous mettrez sur un autre plan, et avec la prière, l'esprit étant là, vous aimerez, et vous ferez quelque chose pour vos ennemis ou les gens qui ne vous aiment pas. La prière permet en effet de surmonter le mal par le bien. Quand Paul, dans les Romains, nous demande de surmonter le mal par le bien. Comment voulez-vous faire ça humainement? C'est pas possible, ça. Surmonter le mal par le bien, on ne peut le faire que par les armes spirituelles, dont surtout la prière. Et la prière ouvre le cœur du chrétien à la pratique du bien. Mes amis, quand vous voulez faire le bien, priez. Ce n'est que la prière qui vous mettra en position de faire le bien. C'est la prière qui procure la force de l'âme, une force qui surmonte la violence, qui surmonte la haine, l'inimitié. C'est cette force qu'a encore la chair, eh bien, elle est matée, cette force, dans la prière. Dans l'histoire des empires qui se sont édifiés sur la terre, nous savons, nous voyons, nous avons appris cela à l'école, nous voyons que ces empires ont été fondés par la force. Prenons l'empire d'Alexandre, prenons l'empire de César, prenons l'empire de Charlemagne, prenons Napoléon, prenons Hitler plus récemment encore, tous ces empires ont été fondés sur le déploiement de la force, force que l'homme s'est donnée, s'est procurée lui-même. Et tous ces empires se sont écroulés. Et on pourrait en citer d'autres encore. Ils sont tous par terre. Il n'en subsiste absolument aucun. Ils se sont tous écroulés. Alors que l'empire que Jésus construit et qui s'appelle le royaume de Dieu est bâti solidement sur les fondements de l'amour, et c'est cet empire qui va remplir toute la terre et qui ne s'effondre pas. Il est fondé, établi sur l'amour de Dieu. Dans le verset 45 de notre texte, le Seigneur dit « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6 et au verset 35, nous avons ceci « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, » et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Dieu est bon pour les ingrats et les méchants. Les ingrats et les méchants sont donc à ajouter aux justes, aux injustes, dont parle Matthieu. L'amour de Dieu, en effet, est compatissant et miséricordieux, et il ne fait pas de différence a priori. Les justes, les injustes, les ingrats, les méchants, les bons, Dieu ne fait pas de différence a priori. Il ne fait pas de différence. Tous ont péché. Voilà. Voilà la constatation que Dieu nous fait faire. Tous ont péché. Et encore cette parole de Jésus, « Si vous ne vous repentez, vous périrez également tous. » Tous ont péché, si vous ne vous repentez, vous périrez également tous. Alors Dieu ne fait pas de différence, lui, et il ne voudrait pas que nous en fassions. Dieu, dans le méchant, dans l'ingrat, dans l'injuste, Dieu voit avant tout le malheureux, l'homme malheureux, malheureux, malheureux à cause du péché, malheureux. Il voit le malheureux. Il ne vient pas juger. Le Seigneur Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Si c'était pour juger, il serait resté dans le ciel, il n'avait pas besoin de descendre. Il n'avait pas besoin de monter sur la croix. Mais il est venu pour sauver. Alors, il ne fait pas de différence, a priori, chers amis. Combien nous avons besoin d'apprendre une telle leçon. Car le christianisme, je ne veux pas parler de nous seulement maintenant, mais le christianisme nous a montré à travers les siècles, précisément, qu'on faisait à nouveau des différences, a priori. Et cela, c'est quelque chose d'insultant pour l'amour de Dieu. Dieu voit le malheureux dans le méchant, et il veut le changer. Et dans Luc, nous avons lu ceci, votre récompense sera très grande. Il y a une récompense, nous parlons quelquefois des récompenses, où on nous fait des prédications sur la récompense à obtenir plus tard. Mais on ne sait pas grand-chose sur cette récompense. Mais voilà quelque chose, là, un passage qui nous en parle. Cette récompense ne sera pas un salaire. Elle ne peut pas venir changer, altérer le désintéressement que doit avoir l'amour. Elle ne peut pas être un salaire, cette récompense. Quelle est donc cette récompense dont parle le Seigneur? C'est l'assurance de parvenir à l'amour parfait et à la pleine participation à la vie et à la gloire de Dieu. Votre récompense sera très grande parce que elle comporte la certitude d'arriver à l'amour parfait, à la pleine participation de la vie et de la gloire de Dieu. Et c'est logique alors que le Seigneur termine cet enseignement de la manière suivante. Soyez donc, ça veut dire c'est sa conclusion, c'est bien sa conclusion, ça résulte bien de ce qu'il vient de dire, de ce qu'il vient de nous enseigner et de proposer à notre méditation. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Votre récompense sera ça, la perfection. Soyez parfaits. Il y a tant de choses magnifiques dans la perfection de Dieu. Il y a, bien sûr, la plénitude de Dieu. On pourrait en parler longuement de cette plénitude de Dieu déjà apportée à l'Église par le Seigneur Jésus. Cette plénitude de Dieu qui est une totalité de tous les caractères de Dieu, les grands, les merveilleux caractères de Dieu, et qui est la constance qui est en Dieu, qui est la continuité que l'on connaît en Dieu. Mais n'est-ce pas trop pour nous? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. N'est-ce pas trop nous demander? Jésus ne peut pourtant pas nous proposer autre chose. Il ne peut pas nous proposer moins que cela. Ça nous paraît énorme. Parfait comme votre Père céleste est parfait. Nous avons, bien sûr, une notion, autant que nous puissions la posséder, mais une notion de l'absolu. Dieu est absolu, tout est en effet absolu, parfait en Dieu. Eh bien, Jésus nous propose d'être parfait comme lui. Il ne peut pas nous proposer moins. Supposez que Jésus nous dise, écoutez, si vous parvenez à faire quelques petits progrès, si je vois que votre cœur chante, si je vois que ces animosités, ces mouvements d'humeur, de la chair à l'égard des autres, se dissipent tant soit peu, ben, ça va, je serai satisfait. Ce n'est pas un langage de Dieu, ça. Dieu ne peut proposer que la totalité. Il ne peut pas proposer autre chose. Il ne peut pas. Dieu, s'il proposait moins que la perfection, il proposerait encore quelque chose qui tiendrait de l'iniquité. Il ne peut pas proposer moins que la perfection. Il est Dieu. Il propose cela. Il sait bien que ce n'est pas en une seconde que nous allons nous présenter devant lui, devenu parfait, comme notre Père céleste est parfait. Il le sait cela. Mais par la sanctification, qui est l'opération de Dieu, eh bien, nous pouvons y tendre à cette perfection, que celui qui se sanctifie encore. Cette perfection qui nous est proposée ici, la perfection de notre Père céleste, est pour nous comme l'étoile brillante qui guidait dans leur marche les mages, voulant trouver l'enfant Jésus. Ils suivaient une étoile, ils n'ont pas saisi l'étoile, ils l'ont suivi et ils sont allés jusqu'à Jésus. Ils ont recueilli beaucoup de cette visite au Seigneur Jésus. Et nous, cette parole que nous donne le Seigneur, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », nous devrions toujours l'avoir là, dans notre esprit, dans notre cœur. Il me faut aller à la perfection. L'apôtre Paul savait qu'il fallait courir pour aller à la perfection. Il ne l'a pas atteint tout de suite, mais il courait pour remporter le prix. Il faut aller vers cette perfection. Si nous perdons cela de vue, notre marche chrétienne va se ralentir, s'arrêter peut-être, ou devenir comme la marche des écrevisses, aller en arrière, rétrograde. Nous avons besoin de mettre cela devant nous. Et pour conclure, disons ceci, en aimant les gens difficiles à aimer, les moins faciles, si vous voulez, à aimer, mais les gens difficiles à aimer, en aimant les gens qui ne nous aiment pas et qui, à certains moments, nous le montrent assez, eh bien, nous tendons vers la perfection de Dieu. Et quand nous avons remporté des victoires sur notre cœur, car il faut être avec Dieu et contre soi, contre son cœur naturel, eh bien quand nous avons remporté vraiment de ces victoires sur notre cœur naturel et que nous sommes arrivés à sentir l'amour de Dieu se diriger vers des personnes qu'avant, qui nous repoussaient ou que nous repoussions, alors là, nous avons fait un départ considérable en direction de la perfection divine. Que le Seigneur nous le permette. Amen. Restons un petit moment dans la prière, si vous voulez. Seigneur, notre Dieu, notre Père, oui, nous n'avons pas bien réfléchi aux ennemis que nous pouvons avoir, les ennemis à cause de notre foi, de l'Évangile. Il y a aussi autour de nous des moqueurs. La parole nous en dit quelque chose, des gens qui profanent toutes choses. Oui, il y a des gens que, naturellement, nous ne sommes pas portés à aimer, et pourtant ta parole nous dit de les aimer. En toutes ces personnes, nous avons le prochain vers lequel nous avons à diriger un amour, la puissance de l'amour divin qui est en nous, Seigneur, remplit nos cœurs de cet amour pour que nous puissions aimer et marcher vraiment en avant vers cette perfection qui nous est proposée. Merci, Seigneur, de nous avoir proposé cette perfection, notre Père céleste. Oh, merci, Seigneur, de nous dire que nous pouvons marcher en direction de cette perfection. Nous pouvons courir aussi vers cette perfection pour l'atteindre. Et le Seigneur nous permettra de l'atteindre quand le dernier moment sera venu. Il allongera notre bras. Et nous atteindrons la perfection. Il nous perfectionnera lui-même, dit la parole. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Tu es grand, tu es miséricordieux, vraiment. Tu es merveilleux Seigneur, et nous louons ton nom dans celui de Jésus. Amen.